Vous écoutez Libre Propos sur Radio Grand Ciel avec Karine Delamer. Bonjour à tous, nous continuons notre libre propos avec Didier Gougis pour notre série sur la lettre des évêques aux habitants de France intitulée « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Étant donné qu'en ce moment on ne peut pas vraiment dire qu'on parle beaucoup du politique, nous allons donc nous y intéresser sur Radio Grand Ciel. La dernière fois, nous avions évoqué l'introduction avec la définition du politique, hein, qui était distinct de la politique, et Didier nous avait expliqué ce que les évêques montraient comme état d'urgence de la France. Et aujourd'hui, nous parlerons des deux chapitres suivants. Le premier s'intitule « Ambivalence et paradoxe », et le second « Un contrat social repensé ». Bonjour Didier Gougis.
Bonjour Karine.
Je suis ravie de vous recevoir à nouveau pour cette lettre des évêques. Est-ce qu'on peut revenir juste très rapidement pour résumer, pour rappeler pour nos auditeurs ce que nous avions dit la dernière fois concernant l'état d'urgence et le politique ?
Alors donc le politique, la politique, hein, c'est ça. Donc les évêques disent qu'on a besoin de retrouver le sens du politique, c'est-à-dire de ce qui fonde la politique. Le politique, c'est ce qui donne le sens, ce qui oriente, et la politique, c'est la mise en œuvre.
D'accord.
Et puis le deuxième chapitre, c'était autour d'une société en tension qui a du mal à entrer dans le dialogue, et on a beaucoup parlé du dialogue nécessaire à notre société.
Très bien. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la question d'ambivalence et paradoxe.
Oui, c'est le titre du chapitre 3, ambivalence et paradoxe. Alors, les évêques nous disent qu'on trouve beaucoup de richesses et de potentialités dans notre société française aujourd'hui, mais elles sont étouffées par des contradictions. Alors, la première contradiction qu'ils constatent, c'est que, justement, cette société réclame des protections supplémentaires, de plus en plus de protections, etc., etc. Et puis, en même temps, elle se plaint des contraintes qui sont données et qui sont de plus en plus grandes, réellement. De plus en plus de contraintes sont données. Je cite une petite phrase. « La juridicisation croissante de notre société est une évolution marquante de ces dernières années. » C'est vrai qu'on a des lois qui viennent s'ajouter à des lois, etc. Et donc, on a cette tension entre le besoin de protection et en même temps, on ne peut pas mettre des lois qui vont gérer tous les détails de la société.
Mais c'est trop lourd.
Alors ça, c'est une première contradiction ou un premier paradoxe. Un autre qu'il pointe, c'est qu'il y a des zones de non-droit et des normes et des règlements de plus en plus pris dans l'émotion et dans la précipitation qui font que les fondements de ces règlements ou de ces lois sont un petit peu douteux. Donc à la fois, c'est une autre paradoxe donc, entre des zones de non-droit et de plus en plus de règlements. Je vous cite page 28. « Il est nécessaire de sortir du tout juridique et de la logique exclusive du contrat qui prévoit tout pour retrouver des espaces de créativité, d'initiative, d'échange, de gratuité. » Voilà. Donc, ce tout juridique risque de nous étouffer, il nous étouffe réellement, en fait. Hein. Et donc, c'est un peu aussi l'effet pervers du principe de précaution. Voilà. Mmh. Alors, on veut toujours être protégé de tout, mais on peut pas. Il faut cesser de croire à un risque zéro. Vivre, c'est risquer.
Exactement.
Voilà. Si on ne veut pas être dans le risque, eh bien, la seule manière, c'est d'aller directement au cimetière. Hein. C'est là qu'on n'aura plus de risque. Donc, le risque, ça fait partie de la vie, et il y a un équilibre à trouver. Et donc, c'est ce qu'ils disent. Il y a donc un équilibre à trouver entre une sécurité maximale illusoire et une protection des libertés qui est fondamentale. Voilà.
C'est terriblement d'actualité, on est bien d'accord.
Ben voilà. Alors, donc ça, c'est un deuxième paradoxe, on pourrait dire. Et puis, il y en a un troisième qui est pointé, c'est qu'on constate qu'il y a un potentiel important de dynamisme dans la société française. On voit des start-up innovantes, des jeunes qui prennent des initiatives dans le domaine économique, dans le domaine technique,
politique,
etc. Bon, il y a aussi de la créativité et des initiatives de solidarité. solidarité importante hein, dans les associations, avec l'intergénérationnel, l'aide aux sans-abri, etc. Et en même temps, il y a une difficulté de réformer qui est très grande. On a un besoin de réforme, et en même temps, ça se bloque facilement.
Parce que c'est trop lourd ou...
Parce que voilà. Alors tout le monde, voilà, je cite encore, ça c'est à la page 29, tout le monde s'accorde à dire que notre pays a un besoin très grand de réforme. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Bien.
Ça c'est moi qui rajoute. Mais tout projet en ce sens est a priori disqualifié. C'est toujours l'autre qui doit faire l'effort en premier. Et donc on a ce blocage qui se fait parce que on est tous d'accord. C'est vrai que quand on parle tous les candidats parlent de réformer, personne ne dit ah non et on va rester comme ça, c'est très bien, on ne bouge rien. Donc il s'agit bien d'un besoin de réformer, tout le monde est d'accord là-dessus, mais dès qu'on s'y met, c'est l'autre qui doit bouger en premier.
D'accord.
Et donc c'est ce problème du corporatisme, de l'enfermement sur ses propres intérêts. En fait, c'est ce qu'il pointe, c'est la difficulté de faire émerger le bien commun.
Commun à tous, que tout le monde
connaisse.
Commun
à tous, voilà, c'est ça. C'est-à-dire le besoin de trouver ensemble, dans cette société française, un horizon commun vers lequel on est d'accord pour
tous
aller
ensemble
et pour lequel on est... prêt à faire des efforts,
d'accord.
Et donc à renoncer à un certain nombre de choses. Si on n'a pas un objectif commun sur lequel on est d'accord et qui transcende un petit peu les intérêts particuliers, eh bien on ne peut pas avancer, on ne peut pas réformer parce qu'on n'est pas, on n'a pas cet horizon et on n'a pas de terrain.
Oui, on a peur d'y perdre des plumes.
On a peur d'y perdre des plumes sans gagner rien. Parce qu'on est prêt à perdre si on gagne pour un plus grand bien. Tout le monde est comme ça d'ailleurs, c'est normal. On est prêt à sacrifier quelque chose, c'est d'ailleurs le mot... Sacrifier, c'est ce que ça signifie. Sacrifier, c'est-à-dire perdre quelque chose pour un plus grand bien.
Ah, très bien.
Mais il y a aussi ce qu'il constate, c'est aussi cette impression de subir les événements, d'un État impuissant, en fait, parce que justement, il manque cette perspective. Et ce chapitre termine, page 30, par un constat. Le contrat social... Le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur le sol du territoire national ne semble donc plus aller de soi. Pourquoi ? Parce que les promesses du contrat ne sont plus tenues. Il a besoin d'être renoué, retissé, réaffirmé. Il a besoin d'être redéfini, le contrat social. C'est donc cette conclusion du chapitre 3 qui nous introduit dans le chapitre 4, puisqu'il s'appelle « Un contrat social à repenser », justement.
Alors, un contrat social, s'il y a un contrat, il y a donc bien deux parties. Alors, qui sont-ils ?
Eh bien, c'est le contrat, il y a même plusieurs parties, c'est le contrat entre les Français. C'est-à-dire, il faut que les Français entre eux et avec l'État qui les représente et qui travaille dans l'intérêt général soient d'accord sur ce contrat social.
Est-ce que l'intérêt général, c'est le bien commun ?
Non, l'intérêt général et le bien commun se différencient parce que l'intérêt général, on pourrait dire, c'est ce qu'il y a qui est partagé par tous.
Le plus petit commun multiple.
Oui, on pourrait dire ça, l'intérêt le plus petit partagé par tous. Alors que le bien commun, il y a une dynamique, il y a une orientation. Le bien commun, c'est ce vers quoi on est d'accord pour aller.
Et
donc,
ah d'accord.
Ça nous emmène vers au-delà de nous-mêmes, au-delà d'aujourd'hui.
Voilà. Et l'autre est dynamique.
Exactement.
D'accord.
Voilà, le bien commun, on le recherche. On est d'accord, on dit, voilà, c'est là vers quoi on veut aller, donc il va falloir qu'on mette en place des choses, mais on est d'accord vers l'objectif qui va être le bien pour tous.
D'accord.
Le bien pour nous tous.
Mmh.
Voilà. Alors, le contrat social, donc ce chapitre commence par cette petite citation que je fais. Il y a un sentiment de déception vis-à-vis de l'État-providence qui n'arrive pas à satisfaire les attentes. Ça, c'est le constat de départ, ce sentiment de déception. Puis ensuite, les évêques parlent d'insécurité sociétale. Voilà. Et il y a, dans cette société, on est comme en insécurité, on a peur du déclassement, alors que c'était une évidence autrefois que les enfants vivraient mieux que les parents. Aujourd'hui, non, c'est plus du tout une évidence. On a peur de ce déclassement. Et cette peur est réelle ou ressentie, parce que quelquefois, elle est plus fantasmée que réelle, mais n'empêche qu'elle est là. Et puis, il y a un autre constat, c'est que le travail... n'est plus protecteur comme il était, ou moins protecteur qu'il ne l'a été. Évidemment, avec cette grande partie de chômage ou cette prégnation du chômage, voilà. Et ils disent, même dans certaines familles, on connaît le chômage depuis 2 ou 3 générations. On n'a connu que ça dans certaines familles, ce qui est absolument dramatique. Et donc, il y a des pertes de repères, les repères simples de la vie en société aussi, qui se traduisent très concrètement, par exemple, dans les campagnes, par la disparition des services de proximité, l'épicerie, le bureau de poste, le médecin, le curé. Donc ceux qui étaient des repères de vie simple ont tendance à s'estomper, voire disparaître. Ça va dans le même sens que de cette insécurité sociétale, parce qu'on n'a plus ces services. Il y a aussi un sentiment qu'il relève d'insécurité et d'injustice. Beaucoup de Français, d'après un sondage de la Croix l'année dernière, une grande majorité de Français a le sentiment de vivre dans une société de plus en plus injuste.
Oui, mais on le redit régulièrement.
Et les affaires régulières, qu'elles soient politiques, financières, ou les salaires astronomiques des grands patrons, de certains sportifs, etc., sont totalement démesurés par rapport aux services qu'ils rendent à la société et par rapport à la pauvreté qui grandit aussi parallèlement dans cette société. C'est le dernier rapport du Secours catholique le met en évidence. Même chaque année, depuis quelques années, la pauvreté augmente.
Tout à fait.
Donc il y a cette grande tension entre des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Du moins, c'est ce sentiment fort qu'ont les Français et qui n'est pas illusoire. Il est vraiment basé sur une réalité. Et puis la plus grande injustice, dit-il, évidemment, c'est le chômage. Le chômage qui touche beaucoup de nos concitoyens. Un autre sentiment d'insécurité qu'il pointe, qui est lié à la violence qui est mise en avant dans les médias. Alors, c'est vrai, peut-être y a-t-il plus de violence, mais c'est pas si sûr que ça. Mais en tout cas, on a une impression... Il y a les attentats, bien sûr. Mais la violence urbaine, la violence quotidienne, c'est peut-être plutôt une focalisation des médias sur ces événements qui font qu'on a une insécurité, une impression d'insécurité plus forte. Et ça, c'est tout à fait indéniable. Et puis, il rajoute là-dessus encore une couche.
On est bien là déjà.
Oui, mais il y a encore une couche, c'est la situation mondiale, qui n'est pas là pour nous rassurer. Les questions que pose l'islam, sa présence dans notre pays, la crainte du terrorisme, les flux migratoires, tout est nommé. Et puis aussi, les interrogations radicales dues aux transformations climatiques et écologiques, disent-ils. Tout ça, ça nous inquiète et ça nous déstabilise, ce qui fait que beaucoup sont exclus du système. On a ce blocage, et on a vraiment besoin de retrouver ce contrat social qui nous permette justement de dans une société de nous retrouver les uns les autres et de se dire ensemble on souhaite aller dans cette direction, ensemble on va bâtir quelque chose qui va être vraiment un projet, le contrat social c'est ça, c'est un projet sur lequel on est d'accord dans une société pour orienter notre avenir et donc sur lequel les hommes et femmes politiques puissent se baser pour avoir un projet. Alors, dans la campagne électorale actuelle, on peut espérer que ces projets, que l'un ou l'autre de ces projets pourra justement rencontrer une adhésion pour avoir ensemble ce contrat social qui se retisse. C'est pas encore évident aujourd'hui, il y a encore un peu de travail à faire, j'ai l'impression.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'ensemble, nous avons donc pu poser, on va dire, un regard clair et on a osé poser des mots sur cette situation qui est vraiment, on peut pas dire angoissante, mais enfin, en tout cas, elle est pas du tout réjouissante, elle est franchement inquiétante. Rassurez-moi, les prochains chapitres, il y aura quand même de l'espoir
Oui, bien sûr. Là, c'est toute la première partie, donc jusqu'au chapitre 5, qui est plutôt un constat de difficultés, mais qui sont aussi autant de défis.
Non, c'est très vrai.
Et puis après, dans la deuxième partie, c'est effectivement des propositions, non pas de politique, mais d'ancrage, de points forts sur lesquels on peut s'appuyer.
Bon, et ben voilà une bonne nouvelle. Chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour un prochain Libre Propos sur cette lettre des évêques dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Didier Gougis, à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
À très bientôt.